Bien, là, le titre de la conférence est « La vie, quel sens pour la philosophie ?», titre assez ambitieux. Je crains de décevoir certaines attentes. Mon propos sera plus modeste. En fait, l'idée de cette conférence est venue de ce que certains philosophes, que je ne nommerai pas, mais je crois qu'il y en a au moins un dans cette salle, sont un petit peu indisposés par l'usage du mot « vie » dans les mouvements dits « en faveur de la vie ». J'en parlais encore à table à midi avec un collègue qui disait « Mais pourquoi est-ce que les mouvements qui s'opposent à l'avortement, qui veulent protéger l'embryon, s'appellent-ils mouvement pour la vie ?» En effet, le mot « vie » est très équivoque, il a de multiples sens. On peut relever tout d'abord trois registres assez différents. La vie biologique, le bios, hein, la vie biologique, que l'on emploie par exemple dans l'expression « la vie des animaux », ou la vie par opposition au fait de mourir, être en vie avant de mourir. Il y a ensuite la vie biographique. Par exemple, si j'achète un livre sur la vie de Napoléon Bonaparte, je ne m'attends pas à une étude sur la physiologie particulière de Napoléon Bonaparte, sauf si ça a une incidence sur sa biographie. Et enfin, il y a la vie spirituelle. La vie spirituelle, comme dans l'Évangile, « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Et d'ailleurs, en grec, par exemple, on emploie là plutôt le mot « zoé » par opposition à « bios » qui renvoie soit à la vie biologique, soit à la vie biographique. Donc nous avons trois registres bien distincts. Et ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Parce qu'à l'intérieur du premier registre, la vie au sens biologique du terme, il y a de nombreux équivoques. Ah, ça commence à être compliqué. Tout d'abord, la vie, ça peut être la vie d'un organisme complet. La vie d'une plante, la vie d'un animal, la vie d'un homme. C'est ainsi qu'on peut savoir que les séquoias géants vivent depuis 2000 ans en Californie, peut-être même plus, je ne sais plus. On peut dire que je vis depuis un certain nombre d'années que je ne révélerai pas à mes anciens élèves, pour en abuser, etc. Donc ça, c'est la vie d'un organisme complet. Mais on peut également parler de la vie d'une cellule. La vie d'une cellule. C'est-à-dire que je peux mourir, mais on peut, avant ma mort, prélever quelques cellules de ma peau, faire des cultures de peau qui continueront de vivre alors que moi, je serai mort. Donc il y a la vie d'une cellule. Et puis cette vie, ça peut être la vie d'un gamète, ça peut être la vie d'un spermatozoïde, d'un ovocyte, qui est quand même distincte de la vie de l'organisme dont est issu le gamète en question. La vie peut être la vie de l'embryon, la vie du fœtus humain. La vie peut être également la vie d'un fœtus animal. La vie d'une graine déjà fécondée. La vie d'un œuf de poulet, voilà, fécondé. Un œuf de poule, pardon, c'est un œuf de poule, donc un petit poulet qui va grandir, hein, mais c'est parce que les autres poulets sont assez rares, il faut bien le reconnaître. Bien, donc vous voyez, ici j'ai quatre registres. La vie de l'organisme complet, la vie d'une cellule ou d'une partie d'un organisme, qui peut parfois survivre à l'organisme lui-même, la vie de l'embryon du fœtus humain, la vie d'un fœtus animal, et bien sûr, une des difficultés pour ce qui généralement intéresse les défenseurs de la vie, c'est arriver à penser la vie de l'embryon, la vie du fœtus humain. Si on est pro-life, pro-vie, comme je pense un certain nombre de personnes dans cette salle, on va dire que la vie de l'embryon est à penser comme déjà la vie d'un organisme complet, et beaucoup de leurs adversaires s'efforceront de soutenir, avec plus ou moins de succès, que la vie de l'embryon n'est pas fondamentalement différente de la vie d'un gamète, ou que c'est un certain stade, mais antérieur à ce qui serait la vie de l'organisme complet. Donc face déjà au concept de vie, nous sommes confrontés à des difficultés théoriques qui font le délice des philosophes de la biologie, des métaphysiciens. Qu'est-ce que c'est qu'un être vivant? Sachant que la notion d'individualité biologique n'est pas toujours claire. La notion d'individualité biologique n'est pas toujours claire. Et si la vie est le caractère propre d'un être vivant, est-elle le propre d'un organisme complet? Peut-elle se dire d'une partie d'un être vivant? Est-ce qu'elle ne peut pas également se dire d'agrégat d'êtres vivants? Par exemple, hein, j'ai assisté il y a ici à peu près 2 ans à une conférence fort intéressante sur la question de l'individuation de l'être vivant, où on montrait qu'un certain nombre de prétendus organismes individuels, les méduses par exemple, et bien d'autres choses encore dans le monde vivant, il y a toujours dans la biosphère, vous avez toujours des choses incroyables. Bon, si vous étudiez la biologie, vous serez toujours confronté à des organismes étonnants. Donc par exemple une méduse, mais il y a d'autres organismes du même type, sont apparemment, semble-t-il, des associations de cellules agrégées, plutôt que des organismes, à proprement parler, unifiés. Donc, sans compter qu'on peut s'intéresser aussi aux monstres, se poser la question de savoir ce qu'est l'individualité chez des frères siamois, savoir de qui sont les enfants de frères siamois ou de sœurs siamoises qui ont des organes génitaux communs. Vous voyez ? Il faudrait peut-être inventer, on connaît la présomption de paternité, mais pour deux sœurs siamoises qui ont un vagin, un utérus et des ovaires communs, se pose la question éventuellement de la présomption de maternité. Hein, qui est la mère ? Bon. Alors, on peut, voyez-vous, être confronté avec la question de la vie à de très graves difficultés, en toute bonne foi, pour savoir ce qui fait qu'un être vivant est bien un être vivant. Je vous le cache pas. Bon. Alors, pour vous rassurer ou peut-être vous décevoir, je ne vais pas approfondir, du moins pas tout de suite, ces questions. Et je voudrais dire que les mouvements en faveur de la vie, généralement, n'ont peut-être pas besoin de approfondir énormément ces questions, puisqu'ils ne se préoccupent pas de la vie en général, mais plus précisément de la vie des fœtus et des embryons humains. Généralement, les mouvements qui militent en faveur de la vie, hein, militent plus spécialement contre l'avortement et pour amener à terme les grossesses, disons, non désirées, menacées pour diverses raisons, et également militent pour proposer des alternatives à l'expérimentation sur des embryons humains dans le domaine de la recherche médicale. J'essaie de dire que c'est pas seulement du militantisme contre quelque chose, c'est aussi du militantisme pour quelque chose. Donc le militantisme pour la vie, il est d'abord pour la vie des fœtus et des embryons humains. Ça doit être spécifié. C'est pas pour la vie en général. Donc ce qui est en jeu, ce n'est pas la vie en général, mais bien la vie de la personne humaine. N'est-ce pas? La vie de la personne humaine, la vie du fœtus, non pas en tant que fœtus, mais en tant que fœtus humain. En tant que fœtus humain qui, déjà, soutiennent les partisans de la vie du fœtus humain, mérite la qualification de personne humaine. Bon, dans cette perspective, on pourrait penser qu'il serait plus juste, c'est-à-dire à la fois plus honnête et plus exact sur le plan terminologique, de spécifier quelle vie il s'agit de protéger quand on se dit en faveur de la vie. Et, par conséquent, la lutte pour la vie, si vous me permettez cette expression, dont il est question dans les mouvements en faveur de la vie, a d'abord pour but la protection de la vie de personnes humaines, pas en tant que cette vie est une vie, mais en tant qu'elle est l'existence de personnes humaines. Ce qui est premier, c'est ici plutôt l'idée de personne que l'idée de vie. Alors, il est vrai, on peut comprendre que mettre en avant le mot « vie » pourrait se justifier comme procédé rhétorique dans la mesure où certains ont du mal à admettre que l'embryon soit une personne. Bon, en revanche, nul ne conteste que l'embryon soit vivant. Car si c'était pas le cas, si l'embryon n'était pas vivant, personne ne se proposerait de le faire mourir. Bon, ce détour rhétorique est, à mon sens, à double tranchant, puisque la raison de fond pour laquelle on refuse de tolérer l'avortement quand on y est hostile est précisément que l'on considère l'embryon comme une personne. Les militants pro-life militent rarement contre la consommation des œufs de poule fécondés, ou alors c'est que j'ai raté quelque chose dans les séances précédentes. Bon, alors tout cela étant entendu, donc je viens de dire en quelque sorte... mon propos n'a pas de sens. Cela étant entendu, mon propos sera de montrer dans cette conférence les trois points suivants. Premièrement, donc contrairement à tout ce que je viens de dire, je pense que l'emploi du terme « vie » peut se justifier dans le cadre de mouvements qui se disent favorables à la vie. Ça peut se justifier. Donc l'emploi du terme « vie » peut se justifier dans le cadre de mouvements qui se disent favorables à la vie. Mais ce sera mon deuxième point. Enfin, ça sera en fait mon troisième point, parce que le premier et le deuxième, je vous expliquer pourquoi. Donc, mon deuxième point que j'annonce en premier. Vous y êtes ? Bon. Donc, mon troisième point que j'annonce en deuxième. Excusez-moi, hein, je suis un peu fatigué. Là. Bon, mon troisième point que j'annonce en deuxième est que ce sens du mot « vie » dépasse la signification habituelle que lui prêtent les défenseurs de la vie. Les gens qui se disent défenseurs de la vie, ils peuvent employer le terme de vie, mais dans ce cas-là, ça donnerait à leur cause une autre portée que celle qu'ils lui prêtent habituellement. Et je pense qu'il est bon d'avoir en vue cette dimension du problème. Bon. Donc moi, je suis d'une certaine manière d'accord avec cette terminologie, mais je pense que si on voulait vraiment lui donner tout son sens, il faudrait avoir en vue des perspectives qui vont au-delà de la protection de l'embryon et du fœtus humain. Et je pense que ouvrir cette perspective peut avoir un sens, pas seulement philosophique, mais aussi moral et politique. Mais avant d'en arriver là, ce que je traiterai comme premier point, voilà, est la chose suivante. Il me faut préciser quelle idée sur la vie est requise pour s'opposer à l'avortement. Cette idée minimaliste n'a pas l'engagement ontologique, n'a pas la signification ontologique métaphysique que je proposerai ensuite d'investir dans une philosophie de la vie. Je ne sais pas si mon propos est clair. Bon. Autrement dit, ce que je vais essayer de montrer dans ma première partie, c'est que il y a une certaine idée de la vie et de la vie de l'embryon et du fœtus requise pour s'opposer à l'avortement fermement. D'accord ? Puis, dans un deuxième temps, je vais dire que l'emploi du terme vie dans cette perspective n'est ni indispensable, ni tellement pertinent pour s'opposer à l'avortement. Donc, les mouvements qui se disent pour la vie feraient peut-être bien de s'appeler autrement. Mais, troisièmement, qu'il y a quand même un sens à se référer à l'idée de vie, un sens philosophique, et que, employer dans ce cas-là le terme de vie, non seulement est légitime, mais me paraît fécond dans la perspective d'une approche philosophique, morale et politique du problème, mais aussi philosophique et morale. Bien. Alors, premier point, mon premier point, l'opposition à l'avortement et aux manipulations d'embryons est fondée sur la reconnaissance du caractère de personne de l'embryon. Voilà le point décisif. L'opposition à l'avortement et aux manipulations d'embryons est fondée sur la reconnaissance du caractère de personne de l'embryon. Alors, dans un livre que j'aime beaucoup, philosophe écossais, mais généreux, qui s'appelle Alasdair MacIntyre, propose une mise en forme d'un certain nombre de débats moraux, hein, dont, parmi d'autres, le débat sur l'avortement. Et, cette mise en forme, donc qui apparaît au début de Après la vertu, un grand livre à mes yeux, cette mise en forme du débat permet de clarifier un peu les données du problème. Donc j'ai fait distribuer ce papier, et on peut voir ici trois arguments types, trois structures argumentatives qui sont en gros des syllogismes. Hein. Ceux qui ont travaillé Aristote en profondeur me pardonneront d'appeler cela des syllogismes, ce ne sont pas tout à fait des syllogismes. Ceux qui n'ont jamais fait la moindre étude en matière de logique formelle Je vous rassure, les syllogismes sont des arguments valides sur le plan logique. Hein, ça ne veut pas dire un syllogisme n'est pas un sophisme. C'est un raisonnement déductif qui a une certaine structure. Bon, donc en gros, ça ressemble à des syllogismes. En tout cas, ce sont des raisonnements qui sont valides, même si on pourrait les affiner. Alors, le premier argument, c'est l'argument libertaire assez classique, qui a eu gain de cause, finalement, en France, et qui est à la source, je pense, de la jurisprudence, parce que c'est une jurisprudence aux États-Unis, une jurisprudence de la Cour suprême. Donc, c'est l'argument suivant. Chacun a des droits sur sa propre personne, y compris son corps. Prémisse majeure du raisonnement. Il s'ensuit qu'à l'époque où l'embryon est encore essentiellement une partie du corps de la mère, celle-ci a le droit de décider librement d'avorter ou non. Prémisse mineure. En fait, c'est la majeure, mais bon, peu importe. Et l'avortement est donc moralement autorisé et devrait être permis. Voilà. Donc là, c'est clair. On est dans une argumentation bien développée, une conclusion qui se déduit rigoureusement des prémisses. Voyons le deuxième argument. Le deuxième argument est un peu plus difficile à saisir, mais il est aussi assez courant. Je ne peux souhaiter que ma mère ait avorté quand elle était enceinte de moi, au sens où j'étais dans son ventre, hein, je précise. Voilà, sinon ce serait absurde. Donc je ne peux souhaiter que ma mère ait avorté quand elle était enceinte de moi, sauf peut-être s'il avait été sûr que l'embryon était mort ou en très mauvaise santé. Mais si je ne peux le vouloir dans mon propre cas, comment puis-je en toute cohérence priver autrui du droit à la vie que je réclame pour moi ? Pour ne pas briser cette règle d'or, je dois refuser à toutes les mères le droit d'avorter, sans que cela m'engage toutefois à vouloir interdire l'avortement par la loi. Donc si on a un argument moral, fondé sur la règle d'or, ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse à toi-même, et ici, dans la seconde prémisse, il y a l'idée d'une identification de mon cas au cas des embryons dans le ventre de leur mère. Je suis moi-même passé par le stade embryonnaire, et donc je me reconnais dans ce stade. Ensuite, par contre, la conclusion est ici une conclusion minimaliste. Hein, vous noterez, sans que cela m'engage toutefois à vouloir interdire l'avortement par la loi, on note sans que cela m'engage. C'est-à-dire que la conclusion politique est tirée, est-ce qu'il faut interdire ou pas l'avortement, pénaliser ou pas l'avortement, n'est pas tirée. Ça ne veut pas dire qu'on tire la conclusion qu'on ne doit pas pénaliser. Là, c'est simplement, il n'y a pas de lien direct entre la position morale et la position juridico-politique. Voilà. Donc c'est simplement une position morale qui n'assume aucune conclusion politique, ni dans un sens, ni dans un autre. Bon. Troisième argument, tuer est mal, c'est priver de la vie un innocent. Un embryon est un individu identifiable, que seul son stade de développement distingue du nouveau-né sur la longue route qui mène vers l'âge adulte, et s'il est bien une vie innocente, c'est celle de l'embryon. Conclusion, si l'infanticide est un meurtre, l'avortement est un meurtre. L'avortement n'est donc pas seulement condamnable moralement, mais devrait être interdit légalement. Donc là, c'est, je dirais, l'argument catholique du magistère, standard, hein, classique, pas nouveau. Hein, c'est l'argument, je dirais, classique de l'Église depuis fort longtemps. Alors, on pourrait ajouter un quatrième argument qui n'est pas envisagé par McIntyre, et un cinquième argument, qui sont en fait des arguments qui sont à rapporter à l'argument C. L'argument C. L'argument D, c'est au fond l'argument qui, me semble-t-il, a convaincu de nombreux démocrates chrétiens, parlementaires et autres, d'approuver la loi Veil en 75. Donc, je l'ai reconstruit volontairement, et c'est un argument qui, d'une certaine manière, part de la conclusion de l'argument C. Vous voyez ? Ou pas tout à fait de la conclusion. Il part de ce qu'on pourrait appeler la première partie de la conclusion. Donc, prémisse, l'avortement et le meurtre d'un enfant innocent. Mais, et là on retrouve la prémisse caractéristique des défenseurs de la loi Veil, d'inspiration démocrate chrétienne, disons, la répression de ce meurtre entraîne des inconvénients politiques, moraux, de santé publique, tels qu'il vaut mieux renoncer à le réprimer à titre de moindre mal. C'est-à-dire l'idée ici est que l'avortement est condamnable moralement, dans l'absolu il devrait être interdit, mais dans une décision politique, on doit prendre en considération les conséquences d'une décision, et on peut renoncer à prendre une mesure juste si l'on considère que les inconvénients sont tellement graves que ne justifie pas d'aller jusqu'au bout de la justice. Donc la conclusion, on reconnaît la conclusion de la loi Veil telle qu'elle fut formulée et telle qu'elle fut soutenue par, je dirais, les démocrates chrétiens centristes, pas tous, hein, je ne désigne pas une famille politique, je désigne un certain état d'esprit. Donc il faut dépénaliser l'avortement tout en affirmant solennellement que l'embryon est une personne et en proposant des mesures préventives mais non répressives à l'égard de l'avortement. Ceux qui ont vécu la période des années 75-79 retrouvent, je dirais, un certain état d'esprit de l'époque assez différent de ce qu'est devenu la législation sur l'avortement en France depuis à peu près la loi Guigou 2002, si je ne me trompe, 2001. Alors l'argument D est à distinguer de celui-ci, de l'argument D', qui est en fait un corollaire de l'argument C, donc une conclusion qu'on tire directement de l'argument C. L'avortement est le meurtre d'un enfant innocent. Or, l'une des toutes premières missions de l'État est de réprimer les crimes et de protéger les innocents, de sorte que renoncer à cette mission serait une défaillance incommensurable avec tous les inconvénients éventuels de la pénalisation de l'avortement. Donc, conclusion, il est du devoir de l'État de sanctionner pénalement la pratique de l'avortement. Vous voyez ? Ce que je veux dire, c'est que l'argument C, qui est l'argument classique, il a reçu depuis l'argument catholique classique, il a reçu dans les années 70 une interprétation nouvelle, l'interprétation D que je vous donne, j'aurais peut-être dû mettre D' parce que c'est tout l'effet que ça fait sur certains apparemment. Donc cet argument D, vous voyez, c'est un argument qui remet pas en question fondamentalement la structure de l'argument C. Il inverse la conclusion en ajoutant une nouvelle considération d'ordre spécifiquement juridique et politique, et il implique l'idée que, eh bien, ça peut être une mesure politique nécessaire, parfois, de renoncer à exercer la justice quand l'exercice de la justice est trop coûteux, en termes de conséquences humaines et pratiques. Voilà. C'est pourquoi d'ailleurs, vous voulez savoir pour qui je vote, moi je, bien sûr j'adhère à l'argument C sans réserve, et je suis pour l'argument D'. Mais j'attire l'attention sur l'argument D parce que les catholiques ont une fâcheuse tendance à s'envoyer fermement des missiles à la figure sur ces questions, catholiques de droite et chrétiens de gauche, disons. Caricaturer les positions des autres conduit à envenimer les débats et à ne pas voir que tout un aspect du débat est spécifiquement politique. Spécifiquement politique. C'est-à-dire il n'est pas seulement moral. Alors ce qui est gênant, c'est qu'au fil des siècles, au fil des décennies, on n'en est pas là, on n'en est pas encore à plusieurs siècles, mais enfin, à mon avis, c'est une chose qui peut durer des siècles, Bon, je suis assez pessimiste. Mais au fil des décennies, évidemment, l'argument C a fini par disparaître de la circulation et l'argument D a fini par être remplacé en pratique par l'argument A. Voilà. On retrouve encore parfois des gens qui soutiennent l'argument B. Ce sont des philosophes un peu idéalistes qui ont toute ma sympathie. Bien, je reprends. Qu'est-ce qui m'intéresse dans ces arguments ? Je voudrais revenir à cet argument. Donc l'argument D et D', je les ai cités parce qu'ils sont très importants pour nous, à notre époque, déjà pour comprendre la situation idéologique, pour comprendre les débats auxquels nous sommes concrètement confrontés dans la plupart des cas. Mais ce qui m'intéresse ici, ce n'est pas les arguments D et D' qui au fond sont les plus décisifs, ou en tout cas ont été les plus décisifs, au début de la mise en place de la dépénalisation de l'avortement en France, Ce qui m'importe, c'est avant tout les trois premiers arguments proprement éthiques. Les trois premiers arguments proprement éthiques. Parce que c'est dans ces arguments qu'intervient vraiment la question de savoir ce qu'est l'embryon, ce qu'est le fœtus. Dans ces trois arguments. Alors, donc je m'intéresse essentiellement aux arguments ABC. Alors, tous ces arguments ont une structure déductive. Ils ont une structure déductive, vous avez deux prémices, une conclusion. Bon. Pour que ces arguments soient complets, il faut qu'ils incluent deux types de prémices. Il y a deux types de prémices. Il faut qu'il y ait une prémisse qui énonce un principe éthico-juridique, moral-juridique, qui exprime une valeur. Exemple, dans l'argument A, chacun a des droits sur sa propre personne, y compris son corps. Dans le deuxième argument, je ne peux pas souhaiter que ma mère ait avorté. Donc là, il y a l'exprimation d'une valeur, et je ne peux pas vouloir pour autrui ce que je ne veux pas pour moi-même. Donc règle d'or, et ici une application particulière de la règle d'or. Troisième argument, tuer est mal. Donc à chaque fois, vous avez un principe éthique et juridique, moral et juridique, qui est affirmé dans une des prémices. Dans la deuxième prémisse, intervient ce que j'appelle une détermination ontologique, du statut ontologique de l'embryon. Donc dans la deuxième prémisse, il y a une détermination du statut ontologique de l'embryon. C'est-à-dire, ontologique, ici je l'emploie d'une manière tout à fait élémentaire, il y a une prémisse qui prend la responsabilité de dire voilà ce que c'est qu'un embryon. Dans l'argument A, l'embryon est une partie du corps de la mère. Dans l'argument B, l'embryon est mon semblable. Il est mon semblable. C'est intéressant d'ailleurs cet argument B, parce que d'une certaine manière, il est le plus économe sur le plan de l'ontologie. Il dit l'embryon est mon semblable au sens où j'ai moi-même été un embryon. Donc on n'entre pas dans une analyse biologique fine du problème. Je me reconnais dans l'embryon parce que moi-même j'ai été embryon et cela s'inscrit dans ma vie biographique cette fois. Et donc je, par le même coup, je peux m'identifier à l'embryon dans le ventre de sa mère. Le troisième argument, est moins économe sur le plan ontologique. Il doit quand même dire que l'embryon est un individu identifiable. Que seul son stade de développement distingue du nouveau-né, etc. Ce qui est, je dirais, relativement raisonnable à partir d'un certain stade du développement embryonnaire. Parce qu'après tout, on peut se poser la question de savoir si, dès l'union des deux gamètes, on a déjà affaire à un individu. Je dis qu'il y avait quand même des difficultés sur cette question en termes de biologie. Est-ce qu'on a vraiment affaire à un individu? C'est pas tout à fait sûr. On sait que dans les premiers stades du développement, eh bien, on peut prendre un œuf fécondé, et jusqu'à un certain stade, on pourrait, par exemple, le diviser artificiellement et créer des jumeaux artificiellement. Enfin, voilà, donc ça fait partie des possibilités. Donc est-ce qu'on peut appeler un individu quelque chose qui peut donner deux individus, vous voyez? Donc là, vous avez une difficulté. D'autre part, il faut être un peu de mauvaise foi pour ça. Certains partisans de l'avortement aux États-Unis se sont appuyés sur l'autorité de Thomas d'Aquin pour dire que l'embryon n'a pas d'âme rationnelle avant un certain nombre de jours, puisqu'il y a toute une théorie de l'infusion de l'âme rationnelle dans l'embryon chez Thomas d'Aquin qui correspond à des vues biologiques du XIIIe siècle. Disons que là, ce qui est intéressant, c'est sur le concept de conception. Donc les défenseurs de la vie disent qu'il faut protéger la vie dès sa conception. Sauf que la notion de conception n'a pas forcément exactement le même sens d'un point de vue ontologique et d'un point de vue biologique. Biologique, on peut dire qu'effectivement, il y a conception lorsque les deux gamètes ont fusionné de manière à ce qu'on ait un programme génétique, une information génétique qui sera celle de l'individu pendant toute sa vie, déjà constituée. Sauf que ça, c'est la conception de, au sens biologique. Mais ça ne fait pas forcément encore un individu, puisque, comme on le sait, une fois que cette information biologique s'est constituée, ça ne veut pas dire qu'on peut pas encore diviser l'œuf pour obtenir deux individus. Alors attention, je dis pas qu'il faut pas protéger l'embryon dès sa conception biologique. Si vous tuez des jumeaux, c'est pas forcément mieux que d'en tuer un seul. D'accord? J'ai pas dit que c'était bien. Ce que je veux dire, c'est que là, il y a des difficultés ontologiques. Voyez? Donc dans ces discussions, dans ces débats, tout n'est pas forcément lisse. Quand on dit on va défendre la vie de l'individu dès sa conception, oui, c'est un individu, oui, mais pas forcément un individu, ça dépend ce qu'on entend par conception. Si vous êtes chez Thomas d'Aquin, avec sa biologie du XIIIe siècle, pour lui, la conception, c'était, je sais plus, 20 jours pour les garçons, 40 jours pour les filles un peu plus tard, voilà. Pardon? Oui, mais c'est pas de sa faute à Thomas d'Aquin, c'est parce que c'était un bon lecteur d'Aristote, et pour Aristote, la femme, la femelle, c'est un mâle un peu raté, donc ça a moins bien pris, vous voyez, donc forcément, ça met plus de temps, c'est pas très réussi, vous voyez. Bon, ça fait un peu long feu, voilà, au sens où faire long feu, vous savez, c'est quand la mèche brûle lentement au lieu d'exploser, donc c'est un peu ça, c'est peut-être pas une très bonne image non plus. Bon, enfin bon, toujours est-il que il est arrivé en tout cas que les adversaires de l'avortement butent ici sur un certain nombre d'objections qui sont pas tout à fait infondées, ce qui à mon avis n'enlève rien à la justesse de leur cause, mais il faut avoir conscience des difficultés. Quant aux arguments des primes, je n'y reviens pas, sont des arguments qui sont décisifs dans le cadre d'une discussion politique, qui sont très importants, mais qui ici présupposent également soit la position C, soit la position B même, sont pour le moment à laisser un peu de côté. Alors, ce que nous voyons, si vous voulez, dans la structure de ces arguments, c'est une structure argumentative qui est caractéristique, et j'ai envie de dire, d'un certain nombre de débats, enfin les caractéristiques, elle est commune à un grand nombre de débats au fond d'éthique, à partir du moment où on croit qu'il y a des droits de l'homme. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le droit naturel moderne, il est fondé sur l'idée que l'homme, en tant qu'homme, a des droits. Et donc, on peut développer des arguments qui ont la structure suivante. Prémisse majeure, affirmation d'une norme, position d'une norme, affirmant le droit d'un sujet. Prémisse mineure, qui exprime ce que j'appelle l'ontologie du sujet de droit. Donc cette prémisse mineure est chargée de dire que tel ou tel type de réalité correspond au sujet de droit défini dans la majeure. Vous allez comprendre. Bon. Et en conclusion, on va dire que tel être a droit à ce qui est exprimé dans la prémisse majeure. Vous êtes perdu ? Je vais vous expliquer. Prémisse majeure, tout homme a droit à la vie. Ça va ? Prémisse mineure, ontologie du sujet de droit. L'embryon est un être humain. Conclusion, l'embryon a droit à la vie. Autre débat. Tout homme a droit à la liberté. Les Noirs sont des êtres humains. Les Noirs ont droit à la liberté. Tout homme a le droit de choisir son métier. Les femmes sont des êtres humains. Enfin, les femmes sont des hommes, quoi. Bon. En ce sens-là, les femmes ont le droit de choisir leur métier. Vous voyez ? À partir du moment où on affirme qu'il y a des sujets de droit, ce qui est une banalité depuis l'invention du droit naturel moderne, c'est-à-dire pas seulement les droits de l'homme de la Révolution française, mais bien d'autres choses, eh bien, pour appliquer ces droits du sujet, il faut explicitement ou implicitement effectuer ce genre de syllogisme dont la mineure doit déterminer ce qu'est le sujet de droit. Il ne suffit pas de dire que les hommes ont des droits. Il faut dire qui est un homme. Vous voyez ? Qu'est-ce qui est humain? Qu'est-ce qui est humain? Donc on retrouve ce débat, si vous voulez, dans plein de sujets. Par exemple, j'aime beaucoup ce téléfilm, qui est aussi au départ un roman. J'ai pas lu le roman, mais j'ai vu le téléfilm. Vous voyez, ça fait pas très sérieux. Bon, La controverse de Valladolid de Jean-Claude Carrière. Alors, c'est pas très fondé historiquement, hein. C'est une reconstruction, mais c'est intéressant parce que le caractère reconstruit renvoie aux problématiques de notre temps. Bon, controverse de Valladolid. Ça se passe au XVIe siècle. Les Espagnols ont découvert l'Amérique. En Amérique, il y a des Indiens. Quels sont les droits des Indiens? La question est, tous les hommes ont certains droits. Est-ce que les Indiens sont des hommes comme les autres? S'ils sont des hommes comme les autres, ils auront ces droits. S'ils ne sont pas des hommes comme les autres, ils ne les auront pas. Voilà. Donc, c'est ce qui est pas très fin dans l'histoire. C'est comme le rire est le propre de l'homme, on va essayer de faire rire les Indiens en leur racontant des histoires qui les font pas rire du tout. Bon, mais voilà. Donc ça, c'est un problème, et c'est un problème qui est structurel, qu'on va retrouver en permanence dans tous les débats qui relèvent du droit naturel. Quelle est la limite entre l'humain et le non-humain? Donc on va retrouver ça dans la science-fiction. Blade Runner. Est-ce que les humanoïdes, c'est bien Philippe K. Dick, hein, Blade Runner, enfin Blade Runner c'est le nom d'origine, c'est les humanoïdes, je ne sais plus, rêvent-ils de moutons électriques, hein, c'est ça. Donc les humanoïdes rêvent-ils aussi de moutons électriques? Donc, supposons que nous autres êtres humains arrivions à fabriquer des robots extrêmement subtils, intelligents, etc. Est-ce que ces robots seraient au fond des personnes comme nous? Si nous arrivons sur notre planète où nous rencontrons des sortes de créatures extraterrestres et que ce sont des êtres humains comme nous, nous retrouverions l'inquiétude de l'époque des grandes découvertes où, arrivant sur un continent nouveau, on trouve des êtres qui nous ressemblent, mais qui sont quand même assez différents. Est-ce que ils ont les mêmes droits que nous? J'arrive en Afrique. Voilà. Je dis, tous les êtres qui nous ressemblent méritent d'être baptisés, et pan, je baptise un gorille. Non, il y a des critères, il faut quand même qu'il sache parler. Oui, c'est vrai, bon. Non, il peut pas dire oui. Il peut pas dire je crois. Bon, mais vous voyez, donc la question se pose. C'est la question du sujet de droit, elle n'est pas nouvelle. Elle est même antérieure à l'invention de droit naturel moderne. Par exemple, dans la politique, Aristote, au premier livre, se pose la question de la légitimité de l'esclavage. Est-ce qu'on peut réduire des hommes en esclavage? Et donc son raisonnement, il a cette structure. Prémisse mineure, voici ce qu'il faudrait que soit un homme pour que l'esclavage soit légitime. Pour que l'esclavage soit légitime, il faudrait avoir des hommes qui sont incapables de prendre des décisions sagaces, des décisions sages. Y a-t-il des hommes de cette nature? La réponse, oui, il y en a plein. Ce qui prouve qu'ils n'avaient pas les yeux dans la poche. Donc, l'esclavage est légitime lorsqu'on réduit en esclavage ce que Aristote appelle un esclave par nature, c'est-à-dire un homme qui, par nature, est incapable de prendre de bonnes décisions. Je vois qu'il y a beaucoup de néo-aristotéliciens, là. Petit sourire, narquois. Bon. Non, je ne crois pas que la position d'Aristote soit vraie, mais je pense qu'il a bien raisonné. Il a bien raisonné. Il faut peut-être avoir la foi pour penser que les hommes sont tous capables de prendre de bonnes décisions. Bien, maintenant, on retrouve cette structure de raisonnement dans la politique, livre 7, chapitre 16. Chapitre 16, où Aristote, en 5 lignes, aborde la question de l'avortement. Et qu'est-ce qu'il dit, Aristote? Alors, Aristote, il fait pas dans la dentelle, hein. Lui, il est pour une politique très malthusienne. L'exposition des nouveau-nés mal formés, ça ne le dérange pas, s'ils sont mal formés, hein. Par contre, sur l'avortement, il met une restriction. Il dit, bon, l'avortement, on peut, mais pas si, à partir d'un certain stade, le fœtus est doué de sensations. Et s'il est doué de sensations, c'est un crime. C'est très intéressant, parce que ça veut dire qu'au fond, Qu'est-ce qui a le droit de vivre aux yeux d'Aristote? C'est un être qui a la sensation, la perception, disons, ce qui est capable d'une certaine conscience. Car pour Aristote, ce qui fait qu'un être a une conscience, c'est d'abord la perception, la sensation. Donc, on voit que dans tous ces raisonnements, on a toujours ces structures avec la position de normes qui disent au fond que tout ce qui est personne a certains droits. Et ensuite, dans la prémisse mineure, ce que j'appelle la question de l'ontologie du sujet de droit, d'accord, où il va s'agir d'affirmer que tel être est bien ou non une personne à part entière. Et donc la question de fond qui occupe les défenseurs de la vie, c'est pas la vie, pas directement. C'est de savoir si l'être qu'ils défendent est bien une personne à part entière. Et c'est par rapport à cette question que se pose leur engagement, en règle générale. Voilà. Donc, j'ai traité mon premier point. Les autres seront plus courts. Alors, la question que j'aimerais poser en deuxième partie, c'est y a-t-il un sens à parler de la vie en général? Y a-t-il un sens à parler de la vie en général? Est-ce que la vie, c'est seulement la vie de l'individu? Est-ce qu'il y aurait un sens à parler de la vie? Alors, il existe beaucoup de philosophies de la vie. Alors, j'ai pas joué au numéro des philosophes à vendre. Hein, j'ai quand même mentionné quelques articles que j'ai en rayon. Donc, il y a des matérialistes, réductionnistes, mécanicistes. Ou alors du moins des mécanicistes. Alors Descartes n'est pas matérialiste au sens où il croit que l'homme a une âme, que Dieu existe, etc. Mais disons que la biologie cartésienne, eh bien au fond, elle est mécaniste. Et si l'on oublie l'âme de l'homme, si on regarde que les animaux, elle est matérialiste et réductionniste. Bon, il y a des matérialismes émergentiste, non réductionniste, c'est-à-dire, ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout ce qui existe vient de la matière, mais le vivant a ses propres lois qui sont distinctes des lois physico-chimiques. Donc on trouverait ça dans un philhomme qui, avec Diderot, Lamarck, Marx, voilà, des penseurs, pour qui tout vient de la matière au départ, mais justement, la vie, c'est quelque chose qui sort de la matière et qui, en quelque sorte, a ses propres caractéristiques. Il y a une sorte de d'auto-création d'êtres qui ont des facultés supérieures à la matière inerte à partir de la matière inerte. Voilà. On peut aussi mentionner un matérialisme organiciste, Auguste Comte, peut-être Aristote, c'est-à-dire des philosophies pour qui la vie du vivant est une opération qui est le propre, non pas de la matière constitutive du vivant, mais de l'organisation de cette matière. Bon. Voilà. Alors, je vais m'éloigner un peu de ces traditions aristotéliciennes, diderotiennes, cartésiennes, et je vais me tourner vers un vitalisme, c'est-à-dire penser que au sein même de l'être vivant, il y a une espèce de principe vital, incorporel. Voilà, c'est une idée qui est d'origine, disons, néoplatonicienne, qu'on retrouve jusqu'à chez Bergson, où, au fond, l'idée est que ce n'est pas dans le substrat matériel que se trouve ce qui est à l'origine de la vie. Il y a un principe spirituel, incorporel, peu importe ici, j'ai pas envie de rentrer dans une philosophie très précise, qui anime le vivant, et qui est à l'origine de la vie. Alors c'est lié à la croyance que, qui est peut-être fausse, hein, je me trompe peut-être complètement, que on ne peut pas synthétiser la vie à partir de matière inerte. Je me trompe peut-être. Pour le moment, on n'y est pas arrivé. À mon avis, on peut attendre longtemps. Mais je me trompe peut-être. Voilà. Alors, pourquoi est-ce que je me fais l'apologiste de ce vitalisme? Eh bien, je me fais l'apologiste de ce vitalisme avec de moins en moins de complexes depuis que j'ai lu un épistémologue du vivant qui s'appelle Georges Canguilhem, et qui m'a fait prendre conscience d'une chose. Une chose toute simple. Une chose toute simple. Qui est liée à l'expérimentation en biologie. C'est-à-dire qu'en physique, quand on fait une expérimentation, on construit le système qu'on expérimente. C'est-à-dire que vous allez fabriquer votre système expérimental. Et nous voyons si les causes que nous avons identifiées produisent bien les effets que nous avons prévus, si à partir des causes, nous produisons les effets. Donc vous voulez savoir si la nitroglycérine, ça explose, prenez de quoi faire des nitrates, voilà, la glycérine, etc. Vous additionnez tout ça, vous secouez, vous voyez le résultat. Vous l'avez produit. Donc c'est en prenant les causes qu'on va produire les effets. Ça, c'est l'expérimentation en physique et en chimie. Mais en biologie, c'est pas ça. Enfin, pas encore. Si jamais ça doit être le cas un jour. En physique, quand on veut identifier les causes, on prend l'être vivant. Et pour savoir à quoi sert un nerf, qu'est-ce qu'on fait? On le coupe. C'est-à-dire qu'on identifie la cause, non pas en produisant l'effet à partir de la cause, mais en suspendant l'effet, en suspendant la cause. On est donc dans une expérimentation négative. C'est-à-dire que depuis que la biologie existe, ce que nous appelons les causes en biologie, ce sont pas des causes, comment dire, complètes. Ce ne sont pas des causes efficientes et totales. Ce ne sont pas des conditions nécessaires et suffisantes, ou du moins on l'a pas prouvé. Ce sont des conditions nécessaires, mais pas forcément suffisantes. Et vous pouvez développer indéfiniment les sciences expérimentales, développer indéfiniment les sciences biologiques, on reste toujours confronté à ce mystère que la vie est déjà là. L'être vivant, on peut modifier son fonctionnement, on peut l'altérer, mais il est déjà là avec sa vie qu'on n'a pas produite. Ce qui fait que, depuis que j'ai pris conscience de ça, je n'ai plus aucun scrupule à affirmer ma croyance, qui est une croyance. Je ne peux pas le prouver, ça. Je ne peux pas le prouver. Je ne peux pas prouver qu'on ne peut pas produire du vivant à partir de matière inerte. Je ne peux pas prouver absolument que la génération spontanée est impossible. On peut montrer que jusqu'ici, on n'a jamais rien prouvé de ce point de vue-là. Mais en tout cas, c'est une croyance qui me paraît assez intéressante, assez pertinente. Et puis, on peut avoir d'autres lignes de fait qui vont dans ce sens pour le croire. Bon. Donc, le vitalisme, l'idée que la vie, d'accord, n'est pas la résultante d'une certaine organisation de la matière, ni quelque chose qui émane de la matière, ni quelque chose de réductible avec l'activité physico-chimique, le vitalisme est une philosophie de la vie pertinente. Deuxième point que j'aimerais amener, je vais sauter une partie, parce que sinon on n'aura pas le temps, donc tant pis, je prends le risque. Peut-être que ça sera incohérent. Bon. Alors le deuxième point que j'aimerais amener, c'est que, vous avez vu, on a rencontré des difficultés pour savoir ce que c'est que l'individualité du vivant. Est-ce qu'une cellule est un individu vivant? En tout cas, est-ce qu'une cellule vit? Ben oui, elle vit, mais c'est pas tout à fait un individu. Et ça se complique encore quand cette cellule est un gamète, que dire quand c'est un œuf fécondé, qu'on pourrait encore diviser. Là, il y a des difficultés. Eh bien, je vais essayer de résoudre mes difficultés en avançant une difficulté encore plus grande. C'est un truc de rabbin. Quand vous posez une question difficile, vous répondez par une question difficile. J'ai appris ça en regardant Rabbi Jacob. Bon. Donc. Il y a une découverte très importante qui a été faite à la fin du 19e siècle par un biologiste darwinien, August Weismann, et cette découverte très importante, elle a profondément marqué Henri Bergson. Cette découverte importante, c'est la continuité du plasma germinatif. La continuité du plasma germinatif. Bien sûr. Alors ça veut dire quoi, la continuité du plasma germinatif? Quand vous avez un œuf qui vient d'être fécondé, il commence à se diviser. Bien. Mais, quand il commence à se diviser, la partie de l'œuf qui va construire les futures cellules produisant les gamètes, les futures cellules reproductives se développent dans la continuité de l'œuf, tandis que par ailleurs, vous avez ce qu'on appelle les cellules somatiques qui vont développer, par différenciation, les autres organes qui vont constituer l'individu. Autrement dit, dans le ventre d'une maman, il y a un petit œuf qui vient d'être fécondé. Dans ce petit œuf, il y a une future petite fille. Et dans ce petit œuf, il y a une future petite fille. Pendant que commencent à se différencier les cellules qui vont faire le corps de la petite fille individuée, les cellules qui vont constituer les ovaires et les futurs ovocytes se constituent dans la continuité de l'œuf primitif avant même qu'il soit différencié. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, comme dit Bergson, la vie est un courant, la vie est un courant qui va de germe à germe. Et les individus biologiques se développent comme des bourgeons le long d'un rameau continu qui va de germe à germe. C'est-à-dire que avec l'œuf de la mère, vous allez avoir la production des ovules de la fille qui vont produire les ovaires de la petite fille, etc., etc. Autrement dit, messieurs, quand vous faites un enfant à votre femme, vous faites, en fait, vous fécondez des ovules qui ont été conçus dans le ventre de votre belle-mère. Ce qui est extrêmement traumatisant. J'avoue que j'ai eu du mal à m'en remettre, le jour où j'en ai pris conscience. Voilà. Ça, c'est terrifiant. Bon. Voilà. Bon. La vie, donc, il y a là un processus continu. Et une individuation qui se développe comme des bourgeons le long d'une espèce de rameau. Mais il y a vraiment un sens à dire qu'il y a une continuité vitale. Alors, chez Weissmann, qui était un biologiste scientifique, positiviste, un peu scientiste, un peu matérialiste, donc il insiste sur la théorie de la continuité du plasma germinatif. Chez Bergson, lecteur de Weissmann, il y a l'idée que la vie a un principe spirituel originel. Et donc là, ça va être un flux vital, une activité vitale, ce qu'il appelle l'élan vital, qui se propage à travers les êtres vivants de génération en génération, qui suit sa logique propre, de telle sorte que se manifeste de part en part, le long de ce flux vital continu, une multitude d'individualités. C'est-à-dire que la vie, c'est pas une vie qui se transmet d'individu à individu, c'est une vie qui a sa propre logique, voyez, à laquelle se rattache chaque individu, mais c'est bien cette vie qui se transmet. La vie se transmet. Et c'est pas une abstraction. Et les individus enracinent leur existence individuelle sur une continuité vitale qui les traverse et qui va se continuer au-delà d'eux-mêmes. Ça va? L'individu est un support pour transmettre quelque chose qui passe par lui. Voilà. Mais attention, ça ne veut pas dire que l'individu n'est pas un individu. Il est un individu. Ça veut dire, par contre, que tout ce qui relève de la génitalité n'est pas, à proprement parler, individuel. C'est-à-dire que mes organes génitaux ne font pas réellement partie de mon corps dans ce qui est spécifiquement individuel, dans ce qui est proprement individuel. Et d'une certaine manière, je me suis développé individu pour porter cette génitalité qui va essayer de propager la vie au-delà de ce corps individuel. Alors vous pourrez trouver que ça offre dans la personne humaine, il y a cette dimension d'individualité propre qui fait que j'ai mon cerveau, j'ai ma conscience individuelle, je suis moi individu, etc. Mais lié à ce que je suis, il y a ma corporité et dans cette corporité, un élément qui me rattache à une espèce, un genre, et pas seulement un genre, qui me rattache à l'ensemble de tous les êtres vivants, puisque tous les êtres vivants, et c'est ça un des beaux enseignements de la théorie de l'évolution des espèces, tous les êtres vivants ont une souche commune. La mouche que j'écrase est ma cousine. Et elle aussi, elle existe, parce qu'il y a une partie de cet élan vital qui s'est propagé par là, voilà, qui a produit la mouche, etc. Il y a une différenciation de multiples espèces, etc. Et donc, la vie, l'élan vital, chez Bergson, il y a cette idée que cette vie, elle va quelque part, d'accord? Elle va quelque part, alors il y a plusieurs belles expressions de Bergson, parce que cette vie, elle agit selon des modalités propres, mais cette vie, elle s'est différenciée en de multiples espèces. Pourquoi? Parce que elle avait besoin de se différencier. Donc, une belle formule de Bergson, très intéressante. Tout se passe comme si un être indécis et flou, qu'on pourra appeler comme on voudra homme ou surhomme, avait cherché à se réaliser et n'y était parvenu qu'en abandonnant en route une partie de lui-même. Bon, c'est un petit peu compliqué à expliquer. Bon, j'aime bien cette formule, mais j'ai pas recopié la bonne formule, en fait, la plus éclairante pour vous. Il y a l'idée que l'élan vital, il va dans une certaine direction. D'accord? Il se divise parce qu'il rencontre des obstacles. Voilà. Donc, il a fallu qu'à un certain stade de l'évolution, il y ait une spécialisation du côté de la vie végétative, une spécialisation du côté de la vie animale, etc., etc. Donc, il y a des processus de spécialisation qui expliquent la diversification des différents êtres vivants. Mais tous ces êtres vivants sont solidaires d'un même élan initial qui les a portés, qui les porte encore, et qui les conduit vers quoi? Eh bien, vers des formes de vie supérieures, mais différenciées. C'est-à-dire, c'est pas simplement un mouvement ascendant, c'est aussi un mouvement divergent. Mais un mouvement divergent où les différents éléments ont besoin les uns des autres. C'est-à-dire que l'animalité n'a pu se développer que parce que les végétaux se sont développés. S'il n'y avait pas de plantes, il ne pourrait pas y avoir d'animaux. Il faut bien que les animaux mangent. Mais en même temps, les animaux ne pouvaient pas devenir des animaux s'ils n'abandonnaient pas en route certaines capacités qu'ont mieux développé les végétaux. C'est-à-dire que primitivement, vous avez des êtres primitifs qui sont ni végétaux ni animaux, qui sont des êtres unicellulaires, qui font à la fois, à un petit niveau, le boulot de l'animal et du végétal. Ils sont capables de se déplacer un petit peu, ils sont capables de produire un petit peu de matière vivante, par synthèse. Bon. Mais ils le font pas bien. Donc ils vont se spécialiser d'un côté ou de l'autre. D'accord? Et tout se fait de la même façon, par spécialisation progressive. Mais donc, cette vie qui traverse toute la biosphère, eh bien, cette vie qui traverse toute la biosphère, elle suppose, elle, pour poursuivre son chemin, pour aller vers, disons, son but, même si le terme de but peut poser problème, pour aller vers son but, elle suppose que ces différentes tendances qui sont développées dans la biosphère restent solidaires, soient complémentaires. On dit, l'homme ne peut pas exister sans l'ensemble de la biosphère sans laquelle, dont il est issu. Et par ses instincts, et parmi ses instincts les plus profonds, les instincts sexuels, il est rattaché à cette activité vitale qui parcourt l'univers entier. Bon, ce qui est intéressant en biologie, ceux qui ont de bonnes connaissances en biologie me le confirmeront, c'est que la grande affaire de tous les êtres vivants, excepté peut-être l'homme, c'est de procréer. Il n'y a que l'homme qui fasse un peu exception. Enfin, ça dépend des hommes, mais bon, voilà. C'est ça. Après, au niveau de l'être humain, et Bergson a une théorie là-dessus, au niveau de l'être humain, on peut effectivement penser que la vie atteint son but, si elle atteint son but, ça se manifeste au fait que la procréation n'est plus forcément l'objectif premier. On peut peut-être s'élever à une forme de vie supérieure qui serait la vie spirituelle. Oui. Qui est l'homme, et en fait pour Bergson, le sommet de l'humanité, ce sont les mystiques. Et le sommet du mysticisme, c'est le Christ. Donc, en tout cas pour Bergson, la fin de sa théorie, donc son grand livre sur l'évolution, c'est l'évolution créatrice. Et puis, un quart de siècle plus tard, il écrit « Les deux sources de la morale et de la religion ». Et dans « Les deux sources de la morale et de la religion », il dit bien que pour lui, l'aboutissement de l'élan vital, c'est d'abord l'activité humaine. Et l'activité humaine la plus haute, la plus noble, la plus accomplie et la plus satisfaisante, y compris sur le plan de ce qui était au départ la tendance sexuelle, qui se va atteindre son niveau le plus élevé dans l'amour, eh bien, elle atteint son niveau le plus élevé dans l'amour qui sera l'amour mystique et l'amour même de Dieu. Et le sommet, pour lui, c'est le Christ. Et d'ailleurs, si on arrive à la fin, au sommet de tout ça, à des gens qui, justement, d'une certaine manière, n'ont plus besoin de consacrer leur existence à la procréation, c'est précisément parce qu'ils ont atteint le but. C'est-à-dire que la valorisation de la virginité mystique, c'est le signe que là, on a atteint le but suprême. C'est l'accomplissement de la sexualité. C'est l'aboutissement de la vie. La vie a trouvé son but. Voilà. Donc, je vais arriver à ma conclusion. Voilà. Ce que je voulais dire en conclusion, c'est que, donc, l'enjeu, donc ma troisième partie qui sera ma conclusion, hein, l'enjeu de la défense de la vie, ce n'est pas seulement la défense de la vie des personnes, quoique cela suffise pour, protester contre les manipulations embryonnaires ou les avortements. Un des enjeux de la défense de la vie, c'est aussi de défendre la vie de la biosphère. L'homme n'est pas tombé du ciel, il est le produit d'une évolution qui est passée à travers la matière, une évolution qui, à mes yeux, n'est pas dépourvue de sens, n'est pas dépourvue de signification, n'est pas simplement le produit du hasard et de la nécessité, quoi qu'en dise de strict darwinien, mais on peut lire les choses un peu différemment. Et cette évolution, elle signifie non seulement que nous tendons vers un but supérieur qui sera la vie spirituelle, vie spirituelle qui donne sens à notre vie biographique, mais il faut savoir que cette évolution, elle a sa racine dans une vie biologique qui n'est pas simplement notre vie d'individu, qui est la vie de tous les êtres vivants, avec lesquels nous sommes solidaires. Alors qu'est-ce qui fait que nous oublions si facilement que nous sommes solidaires, que nous sommes rattachés charnellement avec le monde vivant, la biosphère? Qu'est-ce qui fait que nous l'oublions? Plein de choses, mais on peut penser en particulier à une vision utilitariste, pragmatique, technique des choses, et en particulier des êtres vivants. D'après Bergson, il y a une tendance, une pente de l'intelligence humaine à, justement, ne regarder les êtres que pour l'utilité qu'ils peuvent avoir pour nous. Et du même coup, il y a une tendance à ne plus voir en quoi la vie existe aussi pour elle-même. Les êtres vivants, ils sont là, ils sont à côté de nous. L'univers entier, il est traversé par un courant vital. Ça a un sens profond de chercher à retrouver cette vie. Et au-delà de la vie elle-même, dans son immanence, ce qui est au principe de cette vie. Bon. Mais quoi qu'il en soit, il est bon de voir que il y a des obstacles, des choses qui font obstacle à cette contemplation du vivant, et je dirais à cette communion de la vie qui nous traverse, cette communion avec la vie qui nous traverse. Nous sommes tous traversés par un élan vital qui se manifeste en particulier dans l'instinct sexuel, mais pas forcément l'instinct sexuel pour faire la bagatelle, hein, c'est l'instinct sexuel en tant qu'il nous pousse à vouloir, à désirer procréer, ou à désirer une certaine fécondité. C'est plutôt que d'instinct sexuel, je devrais parler de l'éros tel que Platon l'a fort bien décrit. Donc nous sommes tous traversés par cet éros, par cet élan vital, cet élan du désir qui ne nous concerne pas seulement nous en tant qu'être humain, mais en tant que rattaché à un cosmos vivant, à un cosmos traversé par la vie. Il n'est pas exactement vivant, mais il est traversé par la vie. Et dans notre civilisation, trop de choses liées à un certain abus de la technique. Il y a très bons aspects dans la technique, hein, et Bergson est le premier à le faire remarquer. Mais une mentalité technique qui peut parfois prendre en politique le caractère d'une mentalité bureaucratique, mentalité utilitaire, tout cela contribue à nous faire oublier qui nous sommes et que nous ne sommes pas simplement des individus, mais des personnes vivantes rattachées à une activité vitale qui parcourt tous les êtres, et que par conséquent, respecter la vie, ce n'est pas simplement respecter la vie des personnes, c'est aussi respecter la vie des vivants, qui ne sont pas forcément des personnes, et avoir un rapport apaisé à ce monde vivant auquel nous sommes charnellement rattachés. Je vous remercie de votre attention.